Le métier de professeur, tout le monde le connaît. Notre propre parcours d'enfant, puis celui de nos enfants, sont jalonnés de profs, tels des repères dans le temps, mais aussi des repères dans l'accès aux multiples savoirs dont ils sont les garants. Le professeur exerce un métier qu'il a choisi, il l'exerce avec rigueur et compétence. Mais avant de se fondre dans l'entité enseignement, les profs sont des femmes et des hommes. Des femmes et des hommes formidables, des bâtisseurs aux multiples facettes. Je suis Christophe Salomé, professeur des écoles depuis une trentaine d'années. Et depuis 15 ans, je me promène d'école en école en tant que maître remplaçant. Je découvre régulièrement des personnes qui ont des choses à raconter, des personnes qui font, des personnes qui ne sont pas juste des enseignants, des profs, etc. Dans ce podcast, je leur donne la parole. Qu'est-ce qui leur a donné le désir d'enseigner? Quelles sont leurs valeurs, leurs passions, leurs attentes? Qu'ont-ils envie de partager?
Prof, etc.
Pierre Sokol est né dans les années 80 à Poissy, dans les Yvelines. À 6 ans, il rêvait de devenir présentateur du Top 50 par amour des clips et, plus généralement, du monde de la musique. Après des études en sciences de gestion au Conservatoire national des arts et métiers, il a débuté sa carrière dans le monde des médias. Il a ainsi multiplié les expériences, chargé d'études en agence média, chef de pub en radio, puis en agence de communication globale, et enfin en régie au sein d'un magazine traitant de la croissance et de l'économie verte. C'est finalement bien plus tard qu'il décide d'opérer un virage en épingle à cheveux en s'orientant vers une carrière d'enseignant au sein du département technique de commercialisation de l'IUT de Paris, préparant les étudiants aux métiers du commerce et du marketing. Son côté etc. c'est au cœur de son enfance qu'on le retrouve puisque c'est dans la musique que Pierre trouve une véritable source d'épanouissement et il parvient aujourd'hui à réunir sa passion pour l'enseignement et celle de la musique en animant par exemple l'activité transversale Music Social Club avec l'aide d'un invité du monde de la musique. Il réussit même l'exploit de faire un parallèle entre sa matière de négociation commerciale qu'il enseigne et l'analyse d'une chanson. Bref, c'est un drôle d'électron libre que je reçois aujourd'hui. Pierre Sokol, bonjour.
Bonjour Christophe, merci pour ce portrait. Je suis né effectivement en 83, voilà, pour être précis. Et 83, bah, des albums légendaires. Je pense à U2 War avec Sunday Bloody Sunday, Cyndi Lauper et David Bowie, Let's Dance. Voilà.
Alors, ma première question, Pierre, oui, est très simple. Je la pose désormais à tous mes invités. Est-ce que vous préférez qu'on se tutoie ou qu'on se vouvoie?
On peut se tutoyer, moi j'aime bien le tutoiement. Ouais, ça me va bien.
Parfait.
Prof, etc.
Quel regard portes-tu sur ton enfance, Pierre?
Ah, alors une enfance joyeuse, un regard attendri, positif, avec mes parents. Moi je suis fils unique, hein, donc avec mes parents, des parents aimants, jamais manqué de quoi que ce soit, donc plutôt assez choyé. J'ai grandi à Saint-Germain-en-Laye, alors je suis né à Poissy, hein, donc dans les Yvelines, pur yvelinois. J'ai grandi à Saint-Germain-en-Laye, j'ai grandi en plus pas loin d'où j'habite actuellement, donc qui a un peu plus d'âge maintenant. Dans une enfance, j'avais déjà... Tu le disais tout à l'heure, l'amour de la musique, les clips, etc. J'avais déjà mon univers, effectivement. J'aimais beaucoup déjà les mises en scène. Étant un ado après des années 90, on a tous grandi avec Michael Jackson, Kurt Cobain, Nirvana, etc. Donc, une enfance, encore une fois, je remercie mes parents, très aimante, très, très choyée. Et c'était l'insouciance, quoi. Voilà.
Quel est ton meilleur souvenir en tant qu'élève?
Ah oui, ça c'est une bonne question. J'aimais bien les classes découvertes, les classes vertes, etc. J'aimais bien. Ça c'était sympa parce qu'on partait avec les camarades, on prenait le bus. Ça j'aimais bien. Et puis peut-être le brevet des collèges, premier diplôme, premier disque d'or si on peut dire. ça je me rappelle parce que tu sais il y avait le nom hein, au collège. derrière les grilles, il y avait le tableau, et donc il y avait ton nom, voilà. Donc c'était, je me souviens, et je me suis dit, oh, voilà, c'est peut-être le premier diplôme, qui en annoncera peut-être d'autres ou pas d'ailleurs, mais ça c'était bien, ça c'était... Et puis le brevet, on avait les résultats, quand je crois que c'était fin juin, début juillet, on partait en vacances après... Voilà, ça je me souviens, c'était bien, c'était et puis après les travaux de groupe aussi, voilà, les travaux de groupe avec les camarades, voilà.
Alors tu parles du brevet des collèges, de ta troisième, on est en oui. pleine adolescence. Tu as été quel genre d'adolescent toi ?
Ah alors quel genre d'adolescent ? Alors j'étais pas, hein, alors je brise un mythe peut-être que mes étudiants m'écouteront ici, mais j'étais un élève moyen, assez passable comme on dit. Je réussissais toujours à passer, et je vais dire ici une vérité, parce que mes copains d'enfance et de la résidence, etc., passaient aussi. C'est-à-dire que si je redoublais, je me retrouvais plus avec eux. Enfin, j'étais plus avec eux. Donc, je travaillais pour ne pas redoubler et ainsi ne pas quitter mes amis, etc. Donc, j'étais un élève, je pense, sympathique, pas ennuyeux pour les profs. Par contre, un peu bavard, je le reconnais, je fais amende honorable, un peu bavard, et un peu rêveur aussi, mais pas discret. Et puis après, je crois que j'ai pris plus confiance en moi au lycée, et puis après dans les études supérieures, parce que ça devenait peut-être aussi un peu plus concret aussi pour moi, les études, et puis voilà.
Est-ce que cette adolescence que tu viens de décrire a influencé le changement d'orientation professionnelle que tu as choisi en devenant enseignant ?
C'est une bonne question. Alors, c'est vrai que je me remets, donc là j'ai 39 ans, je me remets 20 ans en arrière, donc à 19 ans, et je repense à tous mes profs, après lycée notamment. Et si on m'avait dit, si on leur avait dit que je serais un jour devant, enfin, j'atterrirais au 143 avenue de Versailles, à l'IUT Paris Descartes à l'époque, qui était quand même, enfin, qui est toujours même, hein, quand même au haut du panier des IUT, mais même dans l'enseignement supérieur, je me serais dit, mais non, c'est pas possible, ça va être un peu compliqué, etc. Donc, je suis venu vraiment à l'enseignement par hasard. Ce qui m'a toujours habité. Alors, je suis venu dans l'enseignement aussi, après, dans le monde professionnel, parce que je recevais beaucoup où je formais, entre guillemets, souvent les stagiaires ou les alternants sur les logiciels, le livret d'accueil. Et c'est vrai qu'on m'avait souvent dit, tu formeras X ou un tel, etc. Et c'est là, je crois, où... Mais après, non, j'étais pas... Enfin, c'est vraiment... pour ça, j'ai souvent aux étudiants, on a souvent peut-être plusieurs vies dans une vie. Alors, et donc, non, je pensais pas vraiment un jour atterrir 20 ans après comme enseignant. Et alors, ce qui m'a peut-être... c'est un petit peu la passion aussi. Après, la passion, finalement, du partage, de l'échange. Et puis, faire progresser les gens, c'est pas mal quand même dans la vie. Voilà.
Prof, etc.
Alors, je le disais dans ton portrait, tu es devenu prof après un parcours très éloigné, finalement, oui. du monde de l'enseignement. Qu'est-ce qui t'a paru le plus étonnant ? Qu'est-ce qui t'a frappé le plus quand tu es passé du monde des médias à celui de l'enseignement ?
Finalement, je remercie aussi ma direction. J'ai une vraie indépendance, enfin une vraie latitude sur la création du cours. Enfin, donc quand je suis rentré enseignant, je suis parti from scratch, hein, de zéro. Alors je me suis beaucoup documenté, comme tout le monde. Je suis allé à la FNAC, j'ai acheté tous les livres de Philippe Mérieux, le Springsteen de la pédagogie, pour créer pour créer les cours. Ben, je suis parti de zéro, c'était un vrai challenge. Donc, je me suis dit, ben, je vais découvrir un nouveau métier. Et je vais aussi beaucoup enquêter. J'ai appelé notamment grâce à LinkedIn. Je me suis remis aussi en question finalement. Donc je vais découvrir un nouveau métier. Est-ce que ça me plaira ou pas ? D'ailleurs, on ne sait jamais au début. Et donc voilà, une certaine indépendance. Et puis là, finalement, je partais de zéro, quoi. C'était à moi à faire le cours, les objectifs du cours, les thématiques. Alors évidemment, hein, j'ai un référentiel avec. Je suis sur des matières en plus vivantes, proactives, où c'est des matières où il y a une vraie pratique. C'est-à-dire, on se pose souvent la question que vont apprendre les étudiants dans cette matière ? Comment vont-ils l'apprendre ? Via des jeux de rôle, alors acheteurs-vendeurs, etc. Comment je vais gérer leur apprentissage ? Et puis je vais les avoir la première année, la deuxième année, maintenant avec le BUT, 3 ans. Et ensuite, comment je vais l'enseigner ? Voilà, et qu'est-ce qu'ils vont retenir durant le cours ? Voilà, c'est un peu ça.
Prof, etc.
Alors tu l'as évoqué un petit peu dans ta réponse, mais... Quelles sont précisément les compétences que tu as particulièrement travaillées pour devenir prof ?
L'écoute, l'empathie. Alors l'empathie en tant que commercial, je l'avais quand même. L'écoute, évidemment. L'adaptabilité. Et le challenge finalement. Alors ça comme peut-être pas une philosophie de vie, mais en tout cas, de se dire, j'ai quand même des étudiants, donc là en post-bac, et je vais essayer de leur présenter le métier, de les amener, encore une fois, sur de la progression, le challenge là aussi. Et donc voilà.
J'ai parlé tout à l'heure du parallèle que tu fais entre la négociation commerciale et l'analyse d'une chanson. Tu peux nous expliquer ça ?
Oui, bien sûr, évidemment. Alors effectivement, il y a une petite analogie que je fais. Dans la négociation, on apprend effectivement à... Alors, et en plus, il y a de nouvelles, là aussi, philosophies. On ne vend plus comme on vendait avant. On crée maintenant de la relation personnelle, humaine, la connaissance du prospect et du client sur des liens. Alors moi, évidemment, la musique comme langage universel, des émotions qui rassemblent, moi ça m'aide. Ça m'aide évidemment peut-être sur une connivence, déjà sur les goûts musicaux, les modes de découverte, les artistes préférés. Et donc là, ça m'amène déjà de la discussion avec le prospect ou le client. Ça crée une petite relation de confiance. Et donc, effectivement, en négociation, on peut rentrer dans une négociation sur différents items, différents points, les conditions de paiement, les délais de livraison, le prix, la garantie, les échanges de visibilité, le service après-vente, quelle est la maturité aussi du fournisseur sur la RSE, sur le développement durable. Et une chanson, finalement, pareil, je peux rentrer par le genre de la chanson, est-ce qu'elle est comique, lyrique, engagée ? Est-ce qu'il y a un contexte historique ? On parlait de U2 tout à l'heure, Sunday Bloody Sunday, évidemment. Culturel, est-ce qu'il y a, on peut en faire une analyse littéraire ? Combien de couplets ? Est-ce qu'il y a des figures de style ? La qualité des arrangements, la qualité des compositions, la mélodie, le couplet, le refrain, et puis l'analyse musicale pure. Est-ce que si on est grand corps malade, on déclame, on slame, tous les instruments qui l'accompagnent, la nature de la voix aussi, voilà. Donc c'est un peu un parallèle qui est assez intéressant. J'en ai aussi un autre parce que on forme beaucoup dans la maison aussi via tout ce qui est les pitch elevators, le personal branding, alors la marque propre, enfin comment on peut se démarquer et comment on peut présenter, c'est-à-dire d'où je viens, où je vais, comment, etc. en deux minutes. Et je prends là aussi beaucoup la musique, elle m'aide beaucoup. Lorsque je prends le guitariste Slash, on le reconnaît en direct. Alors je mets toujours une slide au tableau, alors le chapeau haute forme, la posture un peu nonchalante, la guitare Les Paul, voilà, comme ça me permet aussi de leur montrer on reconnaît directement la personne, quoi. Donc ça m'aide beaucoup aussi, voilà.
Prof, etc.
Contrairement à ce que pensent de nombreuses personnes, être prof est une activité qui demande beaucoup de temps. Oui. Temps de préparation, temps devant les étudiants, temps de correction ou d'accompagnement. Comment parviens-tu à concilier tout ça avec ta passion pour la musique ?
Oui, alors merci de la question. Surtout, elle tombe en plus à point nommé parce que actuellement, en septembre, là reprennent aussi les conférences métiers, hein, le festival Stratégie, les soirées CB News, les colloques académiques. Donc effectivement, tout ça. Alors c'est une bonne organisation. C'est une bonne organisation. J'ai la chance de travailler, alors habiter à Saint-Germain-en-Laye, travailler sur Paris. Souvent, les colloques et les soirées professionnelles se font à Paris. J'arrive à gérer mon temps et puis me mettre surtout à jour. Hein. Tous les cours que je fais sont mis à jour. Donc oui, plutôt une bonne organisation. Et puis après, c'est aussi la passion. Enfin bon, ça va, je suis quand même assez... Enfin, on est quand même dans un environnement assez privilégié, donc et puis je me nourris aussi beaucoup, hein, beaucoup de retours d'expériences de collègues, d'expériences d'entreprise, donc ça m'aide aussi dans ma pédagogie, hein, par l'apprentissage, par l'action, ce qui me permet de former les étudiants aux techniques de négociation assez abouties. Et donc voilà, et puis le soir, lorsqu'il y a un concert entre la Boule Noire, la Cigale ou l'Olympia, c'est vrai que parfois le lendemain, le réveil est un peu épique, mais bon, c'est le prix à payer de la passion, voilà.
Quand on a préparé cette interview, tu oui. m'as dit que tu avais conservé une activité dans la presse musicale
oui,
indé.
Tout à fait.
Il y a Longueur d'onde et Rolling Stone Magazine France.
Oui.
Tu peux nous parler de ces deux projets ?
Oui, bien sûr. Alors, je travaille depuis 2015 pour Longueur d'onde, donc il y a un magazine musical indé. Alors, c'est Longueur d'onde, c'est quand même assez incroyable. On fête cette année les 40 ans du magazine. 40 ans tout pile. C'est un fanzine qui a été fondé par Serge Beyer du côté de Bordeaux. Serge nous vient de Bordeaux et passionné de musique. Et lui a créé le sûrement le plus vieux fanzine de France qu'on tire à 100 000 exemplaires et 4 numéros par an. C'est quand même déjà une belle... un gros tirage et une organisation derrière où on touche une cible consommatrice de musique, donc c'est-à-dire qu'on dépose le magazine dans les salles de concert, les médiathèques, les studios de répétition, les écoles de musique, les festivals, les radios aussi. On peut nous trouver chez Oui, Nova et France Inter, et on traite de la musique plutôt rock, pop rock, de l'espace francophone, voilà. Et donc on a eu les premières couves, je pense à Dominica, à Kali, à Jeanne Haddad, à Skip the Use, à Arthur H, voilà. Donc c'est assez intéressant. Pour le prochain numéro, on revient avec une rencontre Alain Chamfort et Miel de Montagne. Miel de Montagne étant un artiste en développement, comme on dit, et Chamfort sur l'aspect dandy symphonique. Il fait une grande tournée là-dessus. Donc ça, c'est évidemment passionnant. Et là, ça t'a peut-être pas échappé. Je gère la commercialisation des espaces pubs et je remercie mes annonceurs fidèles, une marque de bière très connue, 8-6, et je remercie aussi beaucoup le Crédit Mutuel qui a une plateforme musicale qui s'appelle Riffix. Voilà, et donc des passionnés de musique aussi. Voilà. Ça, c'est pour longueur d'onde. Et Rolling Stone, ouais, Rolling Stone Magazine France, hein, donc on a la licence française. Je travaille avec l'éditrice là-dessus, qui a déménagé sur Bordeaux. Donc, je suis un peu le pendant parisien lorsqu'il faut se déplacer. Donc, là aussi, marque média mythique, avec un positionnement aussi bien à lui, hein, reconnu presse IPG. On est entre les magazines culturels et sociétaux et les magazines musicaux. On est d'intérêt politique et généraliste, donc on traite autant de politique que de musique que de culture. Et évidemment, c'est une marque forte, prescriptrice, culte. Et là, c'est assez marrant parce que j'ai reçu les derniers numéros ce matin, et c'est Léonard Cohen. Voilà, Léonard Cohen en couve. Alléluia, j'ai envie de dire.
Prof, etc.
Un autre thème que j'aimerais bien aborder avec toi, c'est cette fameuse activité transversale Music Social Club en amphi. Oui. Ça consiste en quoi ?
Tout à fait. Alors, je l'ai lancée en 2018. Alors, elle est finie maintenant, hein, parce qu'avec la nouvelle réforme du BUT, je n'ai plus, on n'a plus nos heures d'activité transversale, donc qui étaient des journées avec une thématique tous les 6 mois où se croisaient des enseignements un peu différents. C'est-à-dire que le prof de logistique amener les étudiants dans un hangar logistique et présenter toute la chaîne de valeur du colis, de la préparation de colis, jusqu'à chez le client final, par exemple. Donc voilà, et ça, c'est passionnant, c'était vraiment intéressant. Et je me suis dit, donc quand je suis rentré à l'IUT à plein temps 2017, je me suis dit tiens, c'est assez marrant. Alors je voyais les collègues core skills, enfin sur leurs compétences propre, déployer des journées types ou des demi-journées types là-dessus et pour intéresser les étudiants, mais vraiment de manière très très opérationnelle. Et je me revois arriver chez la personne qui gérait ça, hein, c'est la prof qui gérait les plannings et les idées, de lui dire alors moi tu sais je suis un peu dans la musique et puis depuis que je suis dans la maison, depuis que je me suis présenté, tous les étudiants viennent me voir, alors monsieur Sokol, comment faire un album, j'ai entendu parler d'un tourneur, d'un booker, et puis alors moi c'est un éditeur et puis moi je voudrais bien me lancer, etc. Et je me suis dit je vais puiser dans longueur d'onde, dans toute mon expérience longueur d'onde et mes contacts et mon réseau, etc., et mon entre-gens, pour leur proposer finalement de leur présenter des métiers pas comme les autres et des métiers donc qui ont vu avec la musique finalement. Et donc je me suis dit c'était en janvier et en juin, je vais prendre un après-midi et je vais faire intervenir des experts, des professionnels de la musique. Et ça a été vraiment super intéressant. J'en suis super fier. Alors les étudiants évidemment étaient très 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 intéressés. Ça faisait ça le comble. Et j'ai eu Pauline Allier d'ailleurs la première invitée. Alors il faut remettre en plus en contexte. On est en 2018. Le contexte socio-économique est pas fameux. Il y a pas mal de contestations sociales en France, etc. C'est assez poreux aussi pour les étudiants. Donc voilà, l'ambiance n'était pas très très joyeuse. Et donc je me dis, en plus il faut que ce soit un peu inspirant et puis un peu moi, quoi. Voilà, un peu push, etc. Et j'ai demandé à Pauline Allier, qui était à l'époque chez Warner Music France, chez Parlophone, de venir, donc elle a été notre grande marraine, et finalement de venir nous parler de son métier au quotidien comme chef de projet, senior, et de nous présenter la filière musicale, alors, l'amont, l'aval, etc. Et ça a été un gros, gros succès. Et donc, elle nous a présenté tout ce qu'elle mettait en place, les partenariats, les opérations spéciales, la création de contenu avec les artistes. Et en plus, alors, c'était Julien Clerc, iPhone, Big Flo et Oli lorsqu'elle était chez Polydor, Joy Jonathan. Donc ça, c'était super intéressant. Et de là, les étudiants, c'était un vrai plébiscite. Et ils m'ont dit, est-ce que vous pouvez continuer ? Et ma direction m'a dit, vas-y, banco, t'y vas. Et après, alors c'est un clin d'œil parce que j'ai invité mon ancien directeur, Thomas Jamet, qui m'a formé dans une agence média. Alors maintenant, il est président d'une autre agence média, IPG Media Brands, qui lui est venu en plus... Thomas avait une actu, il avait sorti un livre. Thomas, il faut savoir que c'est quand même le pape, le grand monsieur en France du brand content. Et il avait fait un livre autour du brand content et il m'a dit, écoute, je viens. Et je lui dis, écoute, on va le faire en plus sauce musicale. Et il m'a dit, il n'y a pas de souci, je vais le faire. Et il nous a fait une intervention, une masterclass brand content et musique.
Tu peux nous développer un peu le brand content ?
C'est le contenu de marque. C'est une fois que la marque a parlé de ses produits, il y a tout le reste après à parler finalement. Comment elle l'a conçu ? Et puis après les outils, etc. Les conseils. Le brand content, c'est le contenu de marque. Voilà, c'est ce que c'est très bien. Un Red Bull, un Nike. Je dépasse le produit et je raconte toute l'histoire finalement, toute l'histoire, tout ce qu'on a mis en place. Et donc Thomas Jamet est venu autour du brand content et de la musique. En mêlant, donc là c'était une édition spéciale publicité musique et les relations, les premières pubs entre Michael Jackson et Pepsi, la pub Levi's de 91 avec les Clash, la plateforme sur laquelle il travaillait avec H&M Loves Music, et ça a été super, vraiment c'était et donc on avait revu le clip Billie Jean à la sauce Pepsi et voilà, c'était un grand grand moment. Donc on continue toujours, on a Brigitte Batcave, une amie. Alors là c'est tous des amis en plus, donc c'est toujours, donc là aussi c'est assez sympa aussi pour les étudiants parce que je tutoie l'invité et il y a une connivence aussi, on en parlait tout à l'heure. Et donc là on avait fait une spéciale RP, spéciale édition RP sur de la promotion. Alors Brigitte s'occupe notamment de Grand Corps Malade, Kimber Rose, Tilassine, Ibrahim Malouf, Imani, Julien Doré notamment. Et donc là, Brigitte, elle, en tant que RP indépendante, nous a présenté son métier autour de la rédaction et de la création de communiqués de presse, de la création d'outils digitaux, type les newsletters par exemple, son métier aussi sur la relance des médias, hein, donc c'est-à-dire vous avez RTL, TF1 ou Rolling Stone a reçu le communiqué de presse, va-t-il en faire un article, est-ce qu'on peut inviter Ibrahim Malouf sur une interview, etc. Ça c'était très très intéressant et ça je crois que ça a beaucoup plu aux étudiants sur finalement comment un artiste parle, comment sont gérées les retombées médias lorsqu'on peut avoir son artiste au journal de 20h, etc. Ça a beaucoup plu. Donc après, on continue. On a l'universitaire maison Jean-Philippe Denis, un peu l'universitaire de ce line-up, qui lui aussi a fait un livre, Introduction au hip-hop management. Alors lui aussi mettait en parallèle toute la science du management avec les artistes hip-hop. Alors il convoquait Bourdieu et Eminem, enfin voilà, c'était assez marrant. C'est un super livre, un livre en plus qui avait reçu un prix de meilleur ouvrage de recherche appliqué en management en 2015. Donc je l'ai lu un peu plus tard, Jean-Philippe, et Jean-Philippe a fait une conférence sur le crossover, sur la fusion dans la musique. Donc comment Jay-Z et Linkin Park travaillent ensemble, Elton John et Eminem, passaient Calogero. Voilà, donc c'était vraiment vraiment intéressant. Après, on continue. Donc toujours, alors là, j'ai eu la DIRCOM du SNEP. Le SNEP, c'est le Syndicat National des Éditions Phonographiques, Patricia Saran, qui est revenue avec nous sur le marché de la musique en 2020. donc sur le top 10 des productions 2021. Et les dernières tendances, les modèles économiques, les certifications. Alors ça les étudiants ont beaucoup apprécié parce que disque d'or, triple de platine, etc. Là, c'était vraiment super intéressant. Et Patricia, ça a été, en plus, elle a fait Sciences Po, donc elle aime beaucoup, elle est très très attachée aussi aux étudiants, et c'est cette passion aussi de transmettre sur parfois un métier qui peut être un peu flou. Voilà. Donc ensuite, Patricia Teglia qui est venue. Patricia, donc attachée de presse, là aussi, attachée de presse indépendante, notamment Suzanne, Angèle, Terre Noire, PR2B. Et Patricia est très très impliquée hein, sur l'égalité homme-femme dans la musique, contre les violences aussi dans l'industrie musicale. Voilà, donc ça c'était très très intéressant aussi. Donc elle a un petit peu repris aussi son métier au quotidien. Sur ben voilà, la rédaction, les communiqués de presse, les conférences de presse, etc. Et on a fini pendant 2 heures avec Alain Lahana, qui a sûrement eu les plus grands artistes au monde depuis 40 ans, Genesis, Phil Collins, Bowie, Tears for Fears, Sade, Marianne Faithfull, Depeche Mode, Henry Salvador, notamment lors de son comeback, Radiohead, Carla Bruni actuellement, Iggy Pop, Patti Smith et bien d'autres. Et là, il nous l'a fait sans PowerPoint, et ça a été 2 heures de management, enfin de 2 heures de cours de management. Voilà, c'était génial.
Quand est-ce que tu as ri aux larmes pour la dernière fois, Pierre, et pour quelle raison ?
Alors, je rigole beaucoup. Alors, aux larmes, j'ai dû tomber sur une chaîne YouTube un peu comique avec, tu sais, les animaux. Donc, j'ai pas mal rigolé là-dessus. Et puis, il y a quelques mois, donc bien avant les grandes vacances, pour ceux qui connaissent un peu l'IUT Paris Descartes, le 5e et le 6e, dès qu'on sort de l'ascenseur, on tombe directement sur les salles. Et là, j'ai vu 2-3 étudiantes qui dansaient, qui chantaient sur Dua Lipa Angèle. Et donc, elles ne m'avaient pas vu parce que la porte était à demi ouverte. Je les ai entendues. J'ai ouvert la porte et donc elle faisait une sorte de chorégraphie maison. Et j'ai trouvé ça assez, voilà, c'était assez rigolo. Et on a tous ri ensemble. Voilà.
Prof, etc.
Est-ce que tu peux me citer un moment préféré de ta journée, qu'il soit professionnel ou plus personnel ?
J'aime bien le matin. Le matin, je suis calme. Alors le matin, bizarrement, il n'y a pas de musique à la maison. C'est plutôt les infos. Je mets la radio, je fais couler le café. Un verre de jus d'orange et j'écoute les informations politiques, générales, parfois aussi les chroniques musicales. Et donc là, ça me permet de voir un petit peu la journée qui m'attend. Donc ça j'aime bien. Et égalité un peu avec le soir, quand la journée s'est bien déroulée, alors c'est pas souvent bien. Et que je me refais un peu le film de la journée, où je suis soit dans le RER ou soit lorsque je fais un footing, voilà, je me dis bon ben voilà, ça s'est bien passé, où est-ce que j'ai été bon, où est-ce que j'étais moins bon, et voilà, égalité, j'ai envie de dire.
Prof, etc.
Quelle valeur a aujourd'hui le plus de sens pour toi ?
Quelle valeur a le plus de sens ? La passion, la passion finalement. Se surpasser, s'investir à fond avec une implication personnelle, ça c'est un vrai moteur. Et je la mettrai, donc la passion aussi avec le partage de la découverte, hein. Le partage aussi de la découverte, et je la mettrai depuis que je suis enseignant, égalité avec le respect. Le respect en classe, les règles de base d'un bon comportement en classe. C'est-à-dire, parce que c'est vrai que le métier que je fais en plus là sur la négociation, il y a énormément, hein, on est sur une pédagogie très active, donc il y a énormément de jeux de rôle. Les étudiants passent devant les autres, hein, donc on est plus là à l'encourager, à le valoriser. et sur des choses qu'il a peut-être un peu moins fait, bah, ça nous donne voilà des pistes d'amélioration. Donc ouais, ça c'est vraiment important pour moi, c'est le respect, les règles de vie en classe. On peut tous se tromper, moi inclus. Encore une fois, j'étais pas foudre de guerre au lycée, même en BTS, etc., en licence. Donc on peut tous se tromper, ça c'est vraiment important, hein, les règles de vie. Ça je fais vraiment très très attention, et en plus ça rentre après dans le programme sur les soft skills, finalement. Le respect, l'inclusion, la différence, voilà, ça c'est vraiment important. Donc la passion et le respect, et puis donc voilà, avec la bienveillance qui va avec, ouais.
Prof, etc.
Quelle compétence ou capacité qui te rend bien des services dans ta vie te rend un peu fier?
Je dirais l'organisation. L'organisation que j'avais dans mon autre vie professionnelle. Le suivi, l'élaboration, de programmes, de to-do list. Ce qui me permet de me dire, alors là, la journée, elle va finir à 18h. Tiens, il y a un concert, la boule noire. Bon, ok, c'est bien. Ça, c'est vrai que l'organisation, alors ça peut peut-être l'organisation, et puis surtout d'avoir aussi une certaine empathie ou une certaine écoute, c'est-à-dire de renvoyer aussi pas mal de feedback aux étudiants, finalement, pour avoir aussi avoir formé, là encore dans une autre vie, des stagiaires, des alternants, d'avoir un peu vu des apprentissages. Et ça me permet, voilà, d'avoir peut-être de donner ce sentiment pour l'étudiant d'être acteur de son propre apprentissage. Voilà.
Si tu pouvais te mettre dans la peau de quelqu'un d'autre, vivant ou mort, pour une journée seulement, tu choisirais qui ?
Une journée seulement. Bob Marley. Marley pour la musique. On parlait tout à l'heure sur la musique universelle. Lui, il a touché tous les publics. Les messages qui étaient spirituels. Puis lui qui a fait une vie finalement qui a été indissociable de sa musique. La mienne est quand même un peu plus cloisonnée quand même. Marley. Et moi je mets souvent des S aux choses, toujours aussi dans la musique. Eric Clapton, notamment sur son MTV Unplugged. Comment après, là, et puis une chanson qui me touche énormément, qui est Tears in Heaven pour son fils Connor. Comment tu rentres sur scène un an après la mort de ton fils, dans les conditions que l'on sait, hein, pour ceux qui ne le savent pas, son fils est tombé d'un building à New York. Comment tu te remets d'aplomb pour dire, voilà, je vais venir chanter en débranché devant des gens. Dans quel état d'esprit tu es? Ça m'a toujours... Et cet album de 92 que j'ai évidemment à la maison. Alors, cette chanson, je la passe pas sous. Je suis plus Leïla, hein, tu vois. Je suis plus Leïla que... Ouais. les deux, parce que pour l'inspiration, et puis Clapton, pour la résilience. Clapton a tout connu.
Ça nous emmène directement vers ma prochaine question. Comment définis-tu le succès ?
Le succès, Goldman dit aller au bout de ses rêves. J'irai au bout de mes rêves de Goldman. Pour Aznavour, c'était en haut de l'affiche. Delpech, quand j'étais chanteur, parlait du public. Le succès, être populaire, vendre des disques, triple album de diamants, ça c'est pour les grands artistes. Le succès, moi, déjà les petits succès de la vie. Le jour où j'ai fait mon premier amphi, je me suis dit, ça s'est plutôt bien passé. C'était déjà un petit succès. Donc le succès, c'est c'est être en accord avec soi-même, enfin en tout cas essayer de faire le mieux et puis de recevoir et d'être heureux, je pense, voilà, et être heureux. Et puis je pense qu'on réussit jamais seul aussi. Il te faut toujours un bassiste, un guitariste, un batteur, voilà. Ron Wood et alors, si t'as Ron Wood, Keith Richards et Mick, alors c'est encore mieux. Mais je crois qu'on réussit jamais seul. C'est aussi donc on peut avoir des petits succès personnels. Et puis bah on est toujours aussi entouré. À l'IUT, je suis entouré, j'ai une direction, j'ai des collègues, j'ai voilà. Donc finalement bah le succès c'est de rêver peut-être d'une chose, et puis de se donner les moyens et puis d'y arriver, voilà.
Tu vois, le temps passe très vite dans cette émission et oui. J'ai quand même une dernière question à te poser. Oui. Qu'est-ce que tu te souhaites pour ces deux prochaines années ?
Toujours d'être heureux, d'avoir toujours cet enthousiasme et puis bah, pourquoi pas trouver le prochain Bono ou la prochaine Lara Fabian dans ma classe, pourquoi pas ? Ça serait bien. Voilà. Puis toujours de parler musique, vraiment. Toujours de parler musique avec les étudiants et voilà, toujours cet échange. Ils m'apprennent aussi énormément, hein, et donc voilà, toujours être heureux et puis bah, les faire monter en compétences, voilà.
Merci Pierre d'avoir accepté mon invitation.
Merci à toi Christophe, merci beaucoup.
Je mettrai en description de cet épisode les références sur les magazines sur lesquels tu collabores. Si vous appréciez ce podcast, n'hésitez pas à vous abonner à Prof, etc. sur votre plateforme de diffusion préférée. Si vous avez envie de m'aider, vous pouvez m'offrir des étoiles, 5 de préférence, sur l'application podcast depuis un iPhone ou un iPad. Ou sur iTunes depuis un ordinateur. Vous pouvez également y laisser un commentaire. Et si vous aussi, vous avez envie de partager votre côté, etc., comme Pierre, avec les auditeurs, écrivez-moi sur Twitter ou sur la page Facebook de Prof, etc. À très bientôt.